Oui, j'ai l'impression qu'il y a une subtilité entre un comité comme Wikipédia.fr qui décide de fiches dans Wikipédia.
Il n'y a pas de comité Wikipédia.fr.
Bon, enfin, qu'est-ce qui crée l'existence d'une fiche? Parce que j'ai bien compris qu'on pouvait modifier, mais pour pouvoir créer la fiche.
Alors, on peut les créer, en fait.
N'importe qui.
Ouais. Alors, sur la Wikipédia en français, à moins que ça ait changé très récemment, en gros, vous mettez le nom d'un article qui n'existe pas, vous suivez un lien, parce qu'il y a des liens qui pointent vers des articles qui n'existent pas. C'est la suggestion, il faudrait peut-être en créer un, mais qui n'a pas encore été écrit. Ils sont en rouge, les liens normaux sont en bleu. Donc si vous suivez un lien rouge, voire même que vous rentrez le nom d'un article qui n'existe pas, si vous le modifiez et que vous le sauvegardez, il se met à exister. Sur la Wikipédia en anglais, cette fonctionnalité a été supprimée pour les utilisateurs trop récents, parce qu'ils ont jugé que les utilisateurs très récents n'avaient probablement pas lu les règles d'admissibilité ou les recommandations sur les sources, et se mettraient probablement à faire n'importe quoi, à créer des biographies bidons ou à créer des biographies sur des gens pas importants, des choses comme ça. Donc, donc oui, non, il n'y a pas de comité.
Modifier ou créer, c'est pareil.
C'est pareil. J'ajoute qu'il y a des gens qui écrivent à notre association pour demander la création de biographies. C'est strictement inutile.
Donc, moi, j'ai une question au sujet de la surveillance qui est mise en place sur les articles. Qu'est-ce qui déclenche les alertes? Comment ça se passe? Comment c'est organisé? Parce qu'on voit bien que si quelqu'un commence à éditer, enfin, en particulier les étudiants, quand on leur donne des points Wikipédia, très souvent, les premières fois, ils ont tendance à avoir envie d'ajouter des éléments fictifs, bidons, voire complètement absurdes. Et en général, dans la minute, au pire, dans la demi-heure, c'est corrigé. Et donc, moi j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur ces mécanismes-là et comment vous répartissez les articles. Et si on crée une nouvelle notice, qu'est-ce que ça déclenche comme alerte, etc.
Alors, tout d'abord, bon, je sais qu'il y a eu des enseignants qui, pour, entre guillemets, montrer les dangers de Wikipédia, incitaient leurs étudiants à poster des fausses informations. Je ne dis pas que c'est votre cas, hein. Je sais que ça s'est fait. Personnellement, je n'aime pas ce genre de méthode, parce que finalement... Imaginez que je veuille faire un sujet sur l'entretien des bâtiments à l'université de Rennes 1. Donc je sois journaliste ou prof de salubrité publique, quelque chose comme ça. Et je vais aller déposer des ordures dans un couloir, et puis après je vais regarder au bout de combien de temps elles auront été nettoyées. Je pense que si je faisais ça, le président de l'université de Rennes 1 se plaindrait à ma hiérarchie. Vous voyez ? Et que également, il est, je rappelle également qu'il est interdit de faire de l'intrusion dans les systèmes informatiques, même à des fins de test. Et je ne suis pas convaincu que poster délibérément des choses dans Wikipédia pour tester la vitesse de réaction, ça ne rentre pas là-dedans. Bon. Mais indépendamment de ça, il y a des mécanismes de surveillance divers et variés. Alors, il y a premièrement... une liste des articles, des modifications récentes que les utilisateurs peuvent jeter un coup d'œil. Il y a des listes de surveillance, c'est-à-dire que si vous avez un compte utilisateur, donc il faut être un utilisateur enregistré, mais créer un compte, ça prend 30 secondes. Vous pouvez avoir une liste d'articles et vous serez prévenu des modifications. Je crois qu'il y a également des flux RSS. Bon, j'utilise pas, donc je n'ai pas trop regardé. Il y a également des bots, des dispositifs automatisés. Parce qu'une bonne partie des bêtises des lycéens, collégiens, etc., c'est un âge où on aime bien les blagues pipi caca. Je sais bien qu'il y a des gens, ça se poursuit après, mais c'est un âge où on aime bien ce genre de plaisanterie, donc on va employer des gros mots, et ça se détecte. On met des listes. Donc il y a un ensemble de mécanismes comme ça, plus ou moins automatisés, qui permettent de récupérer pas mal de choses. Mais même par exemple, il y a eu un moment, il y a des gens qui trouvaient très intelligent de prendre des biographies de personnes, de people, et de déclarer qu'elles étaient mortes. Bon, c'est très simple ça. Il suffit de prendre tous les mots de vocabulaire qui veulent dire mort, et de croiser ça avec ce qui est biographie, et puis de regarder quand est-ce que quelqu'un rajoute ça dans les articles. Donc je ne dis pas que tout est capturé par ce type de mécanisme. C'est une des raisons aussi pour lesquelles un certain nombre de personnes, dont moi-même, n'aimons pas trop les articles sur des sujets, en particulier les biographies sur des sujets trop confidentiels, parce que tout le monde s'en fiche. Les gens ne l'auront pas dans leur liste de surveillance. Ce sont des articles qui n'intéressent que le sujet de la biographie, ses amis, sa famille et ses ennemis. Quand je dis ses ennemis, ça peut être son ex-femme ou son ex-mari. On a vu des disputes autour de musiciens, vous voyez, déjà des groupes pas connus, mais en plus des membres un peu secondaires de groupes pas connus, qui a leur femme qui se venge, enfin, des histoires, mais là on se dit, mais la solution la plus simple, c'est de virer leur biographie. Vous voyez ?
Quel est le taux de modification par rapport au taux de consultation ?
Alors, il paraît que c'est assez faible. Je n'ai pas les statistiques en tête, mais c'est relativement faible. D'un autre côté, je préfère que les gens qui ne savent pas forcément des choses sur un sujet s'abstiennent d'écrire dessus plutôt qu'ils écrivent n'importe quoi. Puis il y a la timidité. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont le droit de modifier. Peut-être. Mais c'est assez faible.
J'ai discuté, c'est plus une anecdote, avec une personne par le web qui dit « Oui, non, Wikipédia, c'est n'importe quoi. J'ai lu tel article, il y a eu plein d'erreurs. » Donc moi, j'ai dit « Puisque tu as vu qu'il y avait des erreurs, pourquoi tu ne les as pas corrigées ?» Je trouve que, en général, quand je consulte un article sur Wikipédia, si dans l'historique, je vois qu'il n'y a pas eu une guerre de correction dans l'heure qui précède, j'ai plutôt tendance à faire confiance. Mais je dis « C'est la moindre des choses, si on trouve une erreur, au moins de la corriger. Ça fait partie aussi de l'esprit, à mon avis, de Wikipédia.
Alors, effectivement, c'est une réponse courante. C'est puisque vous trouvez qu'il y a tant d'erreurs, pourquoi vous ne les corrigez pas ? Ce à quoi les gens qui font ce type de critique vont répondre que ce n'est pas eux de corriger les erreurs et que, également, ils ont peur que s'ils corrigeaient les erreurs, il y a un imbécile qui passe derrière eux pour les remettre. C'est un point de vue recevable. On n'a pas forcément envie de passer son temps à aller corriger des erreurs sur Wikipédia. On n'a pas forcément non plus à consulter le site, en fait, finalement. Parce que les gens qui se plaignent de Wikipédia qui est un site gratuit pourraient ne pas le consulter. Il y a des tas de journaux et de magazines que je trouve mauvais, je ne les achète pas. Je dirais à la limite que le fait que ça soit modifiable, quand vous trouvez une erreur dans un site non modifiable, comment vous faites ? Je vais prendre un exemple pratique. Il y a quelques temps, il y avait un article publié dans Le Monde sur des problèmes de cryptographie. C'était de la fuite d'informations, je crois, via les caches de code du processeur, peut-être le cache de branchement, je ne sais plus. Il y a de l'information qui fuit entre deux threads par ce genre de mécanisme. Sauf qu'évidemment, le journaliste n'avait absolument rien compris à ça. Et avait repris finalement une espèce de communiqué de presse, ce qu'il avait cru comprendre, un communiqué de presse publié par une université. C'était n'importe quoi. J'ai pas la possibilité d'aller changer l'article du Monde pour leur faire remarquer que c'était n'importe quoi. Ils auraient pu appeler Jacques Stern ou David Poincheval avant de publier ça. Mais bon.
Vous allez peut-être me dire que je ne devrais pas consulter Wikipédia, mais de temps en temps, il m'arrive de trouver que des articles sont archi trop spécialisés par rapport à la question que je me pose sur un sujet. Donc est-ce qu'il n'y a pas un danger à ce que justement le moindre sujet soit tellement développé qu'on n'y trouve plus l'info de base qu'on chercherait dans l'article ?
Alors c'est très intéressant comme remarque. Il y a une critique. Donc les gens, par exemple, cet étudiant de l'IEP disait « Wikipédia, c'est très bien pour la culture populaire, des choses sans grand niveau de sophistication ». Et qui ne sont pas représentés dans les encyclopédies généralistes. Il y a d'autres personnes qui font remarquer que les sujets dans Wikipédia sont beaucoup trop. Créent un niveau beaucoup trop haut. Il y a des gens qui disent, par exemple, les articles de maths sont incompréhensibles et sont écrits pour des mathématiciens et pas pour le français moyen, enfin l'internaute moyen. C'est pas facile. Est-ce que c'est possible d'écrire un article de maths pour l'internaute moyen? Est-ce qu'on peut parler de cohomologie motivique au niveau 3e? Parce que moi, je me rappelle de recommandations publiées par certaines sociétés savantes qui disaient que si on s'adressait au grand public ou aux journalistes, fallait parler à niveau 3e. Donc, il y a forcément des choses qui vont être au-delà. Alors, c'est vrai qu'à mon avis, il y a des choses qui commencent de façon trop spécialisée. Par exemple, je me rappelle d'articles sur des molécules. Typiquement, c'était molécules type médical. La plupart des gens qui consultent ça, ils n'ont pas envie de connaître les détails de la synthèse de la molécule, des choses qui demandent des connaissances de chimie orga assez poussées. Ils ont envie de savoir à quoi elle sert en pratique. Et ça commençait par des explications très, très compliquées. Donc oui, il y a sans doute une partie des spécialistes dans Wikipédia qui peut-être un peu de pédagogie. Ce n'est pas facile. Hein.
Donc une dernière question.
Sur le problème du choix éditorial et du fait qu'il n'y en a pas, je me souviens par exemple d'histoires sur les articles sur la scientologie. Donc il y avait des guerres d'édition, etc. Et à un moment ou à un autre... Il y a des paquets d'IP, il me semble, qui ont été bannis. Mm. Et il y a certains articles, parfois, qui sont fermés à l'édition ouais. pendant un certain temps. Qui c'est qui fait ce choix ? Et puisqu'il n'y a pas de contenu éditorial, ce serait dangereux juridiquement. Il y a une responsabilité de quelqu'un ou c'est juste un utilisateur qui a décidé de fermer ça ?
Alors, il y a effectivement un certain nombre d'articles sur lesquels il y a des restrictions d'édition. Alors, c'est une minorité d'articles, mais souvent, c'est des choses relativement visibles. Par exemple, je ne pense pas... Je n'ai pas vérifié, hein, mais je ne pense pas que la biographie de Nicolas Sarkozy soit librement éditable par l'utilisateur lambda qui se connecterait au site maintenant, sans s'être enregistré, sans avoir passé un minimum de temps à se familiariser avec le site. Parce qu'on sait bien que si on permet ça... Il va y avoir des gens qui vont vouloir tester les choses, mettre des plaisanteries pipi caca, mettre des choses indésirables, mettre des rumeurs, mettre du tract politique. Et que si on met un peu de friction pour les en empêcher, ça va en éliminer une bonne partie. Donc effectivement, il y a des articles verrouillés ou semi-verrouillés. Ça, c'est décidé... au niveau des administrateurs qui sont des utilisateurs qui n'ont pas de rôle éditorial mais qui sont élus par les autres utilisateurs pour avoir, on va dire, un petit rôle de discipline interne. Donc, y a ça sur la scientologie précisément. Alors, c'est sur la Wikipédia en anglais. Il y avait effectivement beaucoup d'éditions qui venaient de blogs d'adresses IP identifiables comme appartenant à la scientologie. Enfin, la scientologie, c'est très compliqué. C'est une multitude d'organisations liées, des gens qui éditaient, puis finalement les bureaux de la scientologie. Ils ont fini par faire craquer. C'est monté haut, parce que pour arbitrer les disputes entre utilisateurs sur la Wikipédia en anglais, il y a un comité d'arbitrage. Et ça a monté au comité d'arbitrage qui a fini par... interdire un certain nombre d'utilisateurs d'éditer certains articles. Donc je ne me rappelle plus de l'énoncé précis de la décision du comité d'arbitrage, mais ça revenait à interdire à la scientologie d'écrire sur la scientologie. Mais c'est pas le seul sujet qui a provoqué ça. Hein. Par exemple, les biographies des frères Bogdanov avaient provoqué également une décision extrêmement énergique du comité d'arbitrage anglophone. Comme je vous ai dit, les biographies, souvent, ça intéresse les sujets eux-mêmes et leurs amis.
Bon, une dernière question.
Moi, j'ai une question par rapport au contenu, on va dire, biaisé ou pas très sérieux qui sont sur Wikipédia et à la désencyclopédie. Est-ce que la désencyclopédie a été créée pour que, finalement, ce genre de contenu se retrouve sur la désencyclopédie et pas sur Wikipédia, où il n'y a aucun lien ? Et deuxième petite question, moi personnellement quand je vois une grosse connerie dans Wikipédia, j'ai pas envie de la changer parce que déjà ça me fait rire. Et puis je me dis, ça va peut-être justement aiguiser un petit peu l'esprit critique des gens. Et qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors la désencyclopédie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site qui se présente superficiellement comme une encyclopédie, mais qui en fait... propose des articles qui se veulent humoristiques ou parodiques. C'est la version francophone de Encyclopedia. Mais il y a d'autres sites un peu du même style qui ont été montés par diverses personnes. Ils n'ont pas de lien avec Wikimedia. Maintenant, qu'il y ait des participants de Wikipédia qui soient partis là-bas, enfin qui participent également là-bas, et les gens font ce qu'ils veulent. Il y a aussi des participants de Wikipédia qui participent à Wikitravel, qui est un site très bien, mais qui n'a pas de lien avec Wikimedia. Il y en a qui participent avec OpenStreetMap, qui est un site très bien et avec qui nous sommes très copains, mais ce qui n'est pas un site Wikimedia, on ne vérifie pas ce... Il n'y a pas de police pour vérifier si les gens participent à plusieurs sites en même temps. Alors maintenant, sur la question des grosses âneries, oui, effectivement, le constat qu'il peut y avoir des âneries dans les articles peut amener certaines personnes à une prise de conscience. Maintenant, j'aurais préféré qu'ils aient la prise de conscience préliminairement à la consultation, et en particulier qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas que sur Wikipédia qu'il y a beaucoup de grosses bêtises. Parce qu'après, on a la réaction « Ah, mais sur Wikipédia, il y a énormément d'âneries, alors que, sous-entendu, alors que à la télé, c'est contrôlé. » Bon.
Merci beaucoup, David, pour vos réponses.